France Inter. Allons-y.
It's Morning Edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour au sommet de l'OTAN ce soir.
As the world becomes more dangerous, allied leaders.
C'est Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui parle. C'était hier avant l'ouverture donc du sommet. Dans un monde de plus en plus dangereux, dit-il, les dirigeants des pays de l'OTAN vont prendre des décisions audacieuses pour renforcer notre défense collective en faisant de l'OTAN une alliance plus forte et plus redoutable. Bonsoir Camille Grand.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'OTAN. Aujourd'hui, vous êtes chercheur au Conseil européen pour les relations internationales. On a un peu le sentiment que ce sommet de l'OTAN, Monsieur Grand, qui s'ouvre, est surtout celui au cours duquel on doit éviter la catastrophe, donc où la cohésion des membres sera réaffirmée, où Donald Trump restera jusqu'au bout. Est-ce que je caricature ou objectivement, on en est quand même un peu là, hein ?
Le sommet de La Haye a été vraiment conçu autour de cet objectif. Il est réduit en temps pour éviter que le président des États-Unis ne s'en aille, puisqu'il n'y a qu'une session de travail et un dîner avec le roi des Pays-Bas, et avec un agenda qui est entièrement centré sur cette question du volume de dépenses militaires, qui est celle qui tient à cœur de Trump et qui est un peu son jugement sur l'OTAN, ça tient beaucoup à cette affaire de combien est-ce que les alliés dépensent.
C'est quand même assez inédit, non, de coudre, si j'ose dire, un sommet de l'OTAN exactement autour des mensurations du président américain, en quelque sorte.
C'est déjà arrivé en 2019 à Londres pour fêter les 70 ans de l'OTAN, où il y avait eu un modèle un peu similaire avec une grande soirée à Buckingham Palace et une grosse session de travail, plutôt que d'avoir un sommet qui s'étale sur un jour et demi ou deux jours.
Je voudrais vous lire, j'allais vous dire Mark Rutte, non pas du tout, Camille Grand, le message que Mark Rutte justement a envoyé à Donald Trump par WhatsApp juste avant le début du sommet et que Trump évidemment s'est empressé de publier. Et il lui dit ceci: Monsieur Président, cher Donald, félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. Une action vraiment extraordinaire que personne d'autre n'ose réaliser. Elle rend le monde plus sûr pour tous. Vous vous envolez ce soir pour La Haye où un autre grand succès vous attend. Ce ne fut pas facile, mais tous les alliés se sont ralliés à l'objectif des 5%. Donald, vous nous avez conduit vers ce moment vraiment important pour l'Amérique et l'Europe et le monde entier. Vous allez réussir quelque chose qu'aucun président américain n'a pu réussir au cours de ces décennies. L'Europe va signer un gros chèque comme il le devrait et ce sera votre victoire. Dites donc, il va quand même très loin pour sauver son sommet, Mark Rutte, non ?
Oui, je ne suis pas sûr qu'il pensait que ce SMS serait publié.
Certainement
par
pas. Ça, là-dessus, je vous suis. Ouais.
Et je crois qu'il essaye de flatter Trump, c'est évident, en envoyant un message qui n'est pas tout à fait faux, qui est de dire voilà, l'augmentation de l'effort de défense des Européens, c'est grâce à vous. Il ajoute des félicitations pour l'Iran qui ne sont pas forcément partagées par tous les alliés. Donc on voit vraiment un effort du secrétaire général pour amadouer Trump avant qu'il monte dans l'avion. On verra comment Donald Trump va se comporter ce soir et demain avec les alliés.
On l'entend, le sous-texte de Mark Rutte qui dit « S'il vous plaît, ne lâchez pas l'OTAN. En tout cas, pas maintenant. » Est-ce que c'est ça le sous-texte, en fait ? On est en train de faire des efforts, on est bons élèves, on avance, l'Europe de la défense avance aussi, mais s'il vous plaît, pas maintenant. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir ?
Y a un message qui est d'essayer de faire comprendre à Trump que les alliés font beaucoup plus que ce qu'il a peut-être en tête, par rapport à 2014, qui était un peu la référence au moment où le point bas des dépenses militaires en Europe, les Européens dépensent 200 milliards de plus par an. Donc on ne peut pas dire que les Européens, et le Canada en l'occurrence, font beaucoup moins, et il y a eu un vrai progrès, et ce progrès, il a eu lieu de manière un peu continue. On peut l'attribuer à Vladimir Poutine, on peut aussi l'attribuer en partie à Trump. Ce qui est très compliqué, c'est en fait d'obtenir de Trump l'espèce de quiproquo qui fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire, d'un côté, les Européens font un effort très significatif et le partage du fardeau des dépenses militaires est plus équilibré qu'il ne l'a été dans le passé et va l'être de plus en plus. Et d'un autre côté, les États-Unis restent engagés en Europe. Et ça, c'est un message qui est passé par les membres de son administration, mais que Marc Rutte essaye d'obtenir du président lui-même.
Est-ce que ça veut dire que on n'est pas sûr que les États-Unis ne vont pas nous annoncer un désengagement, même s'il n'est que partiel, en fait? Est-ce qu'il y a toujours la crainte que Donald Trump nous annonce un désengagement des États-Unis de l'OTAN, voire, et ce serait une sorte de désengagement, faire rentrer chez lui, si je puis dire, les 100 000 soldats américains qui sont encore sur le sol européen? Est-ce que ça reste une crainte, ça, ou pas?
Alors, c'est plus qu'une crainte, puisque ce désengagement est déjà annoncé. Hein. L'administration a dit, après le sommet, on va vous dire combien de soldats américains restent en Europe. Ce qui est quand même un peu un problème de l'annoncer après coup, mais bon, le message est déjà là. Il y aura moins de soldats américains en Europe, et la posture des forces américaines en Europe va être réduite. Toute la question, c'est de savoir si ça va être fait de manière organisée, avec une transition vers une OTAN plus européenne, mais qui s'étalera sur plusieurs années, une décennie, avec quelque chose de, et avec le maintien d'une présence américaine significative, ou si on va davantage vers un scénario beaucoup plus brutal, où il y a des annonces unilatérales et une réduction très forte des forces américaines à un horizon très rapide. Donc ça, c'est l'inquiétude des Européens, et qui plaide, d'ailleurs comme les militaires américains, pour quelque chose qui soit beaucoup plus progressif et ordonné.
Quand il va arriver, Donald Trump, il arrive évidemment en bombant le torse, puisqu'il a bombardé l'Iran, il a demandé un cessez-le-feu qui certes est fragile, mais il l'a demandé, il arrive en actant que ce qui commande, c'est la loi du plus fort. Et au fond, j'ai deux questions, Camille Grand, là-dessus. D'abord, quand il arrive en actant ça, c'est la loi du plus fort qui marche et je suis le patron, qu'est-ce qu'on en fait quand on est l'OTAN? Et je me demandais d'ailleurs jusqu'à quel point cette histoire iranienne, elle venait à la fois empiéter, mais percuter aussi un sommet de l'OTAN, parce que c'est un terrain évidemment qui nous intéresse tous, mais c'est pas le terrain de l'OTAN. Donc est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous percute? Qu'est-ce que ça fait, cette histoire de l'Iran au milieu?
Alors formellement, l'OTAN dira on n'a rien à faire avec cette...
C'est ça.
C'est pas la zone de l'OTAN, et l'OTAN n'est pas impliqué dans ces frappes, même si beaucoup d'alliés ont soutenu, certains très directement, d'autres du bout des lèvres, l'intervention américaine, et d'autres l'ont critiqué, en tout cas dans sa forme légale. C'est le cas du président Macron. Donc on est dans quelque chose où l'Iran s'est invité, quoi. Cette crise iranienne s'est invitée dans le sommet, parce qu'on ne peut pas en faire abstraction. Je crois qu'il y a eu une sorte de ouf de soulagement avec le cessez-le-feu aujourd'hui à La Haye, parce que c'est pas la même chose d'avoir une guerre ouverte et des missiles qui volent à travers le golfe arabo-persique entre les Iraniens et les Américains. Donc ce sera plus facile à gérer qu'on pouvait l'imaginer hier, avec une sorte de félicitation pour le fait qu'il y a cessé le feu, inquiétude partagée sur le nucléaire iranien, et évitons de parler des sujets qui fâchent. Donc c'est un peu ça la situation. C'est pas à l'ordre du jour formellement, mais ce sera dans toutes les têtes, et ce sera probablement aussi dans les conférences de presse des uns et des autres.
Et le fait qu'il arrive en disant « Regardez, finalement, c'est la loi du plus fort qui marche », qu'est-ce qu'on fait de ça quand on est l'OTAN ?
C'est compliqué pour l'OTAN, parce que l'OTAN a longtemps défendu l'idée d'une alliance fondée sur des valeurs, sur le respect de la norme internationale, et donc là on voit un président des États-Unis qui, d'une certaine manière, dans sa logique de paix par la force, n'est pas forcément très sensible à tout ce discours traditionnel d'alliance des démocraties, etc. Et ça va même un cran plus loin, puisqu'on a un président des États-Unis qui, peut-être pour la première fois de l'histoire américaine des dernières décennies, ne cherche pas du tout à obtenir, au fond, le soutien ou l'engagement de ses alliés dans ses actions. C'est ça qui me frappe le plus en ce moment, c'est qu'on a un Donald Trump qui, au fond, se fiche éperdument de savoir si les Européens sont pour, sont contre, participent, ne participent pas, alors que toutes les administrations précédentes, y compris d'ailleurs Trump 1, travaillaient avec les alliés dans la gestion des crises du Moyen-Orient.
Alors Trump 1 peut-être, mais parce qu'à ce moment-là, il avait peut-être un état-major autour qui le poussait vers ce multilatéralisme, il ne l'a plus autour. Désormais, son entourage est différent, donc ça dit peut-être ça aussi, non, Camille Grand?
Oui, il y a une forme, dans cette nouvelle administration de Trump, On voit une forme de régionalisation des questions de sécurité. Il n'y a aucune demande pour que l'OTAN s'implique dans l'Indo-Pacifique. Il n'y a pas de demande vers les alliés européens pour qu'ils participent à la gestion soit diplomatique, soit militaire de la crise au Moyen-Orient ou des crises du Moyen-Orient. Donc on voit vraiment une administration américaine qui fonctionne un petit peu en tuyau d'orgue et qui dit, au fond, le métier de l'OTAN, c'est de défendre l'Europe et de le défendre avec le moins d'Amérique possible.
On a du mal à comprendre où est Trump en ce moment, Camille Grand, dans sa relation dans la guerre en Ukraine, donc entre l'Ukraine et la Russie. Zelensky sera au dîner, mais visiblement pas à la réunion de travail. On n'est même pas sûr que l'Ukraine sera dans le communiqué final, dont on sait déjà qu'il sera d'ailleurs extrêmement bref. Est-ce que vous savez où est en ce moment Donald Trump sur cette question de l'Ukraine ?
Alors, personne ne le sait, malheureusement. On est dans un moment où on sait que Trump est... agacé par l'absence de progrès, a un peu rééquilibré son discours pour attribuer cette absence de progrès davantage à la Russie qu'à l'Ukraine. D'une certaine manière, ce qui s'est passé au Moyen-Orient l'a distrait du sujet ukrainien, et donc on a un Trump qui, en revanche, ne condamne pas les frappes russes qui ont lieu toutes les nuits sur les villes ukrainiennes. Et donc on ne sait pas trop comment le fil de ce qu'il essaye de faire en Ukraine et de provoquer un cessez-le-feu va être repris ou pas repris. La présence de Zelensky, c'est une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire que Zelensky l'an dernier était très présent, très actif au sommet de Washington, comme il l'avait été l'année précédente au sommet de Vilnius. Là, on a un Zelensky qui est un petit peu sur les marges du sommet, qui va peut-être rencontrer Trump demain, mais qui, au fond, est là pour rappeler aux alliés que l'Ukraine, c'est important, et d'éviter que la place de l'Ukraine dans les réflexions de l'OTAN soit trop dégradée. Donc c'est un peu ça le jeu des Ukrainiens et de leurs amis européens, c'est de rappeler par la présence de Zelensky que le sujet ukrainien et donc par rebond le sujet russe sont des sujets importants pour cette alliance, et donc de un petit peu là-dessus forcer la main d'un Donald Trump qui finalement se serait assez bien contenté d'un sommet qui ne parle ni d'Ukraine ni de Russie.
Mais est-ce que ceci, l'Ukraine n'est pas dans le communiqué final, est-ce que ça sera un échec pour l'OTAN en fait? Est-ce que on dira que c'est finalement un sommet pour rien ou pas?
Alors le communiqué final va être très court apparemment. Ouais. C'est un choix délibéré de pour éviter le maximum de sujets à négocier. On verra si Ukraine et Russie ils trouvent leur place. Ce qui, pour moi, est important, c'est le message qui va ressortir de tout ça. Et est-ce que les alliés, à l'occasion de ce sommet de la haie, vont dire, de préférence dans le communiqué, et sinon dans leur communication autour, qu'ils restent très attachés à une solution, certes négociée sur l'Ukraine, mais qui ne soit pas une capitulation de l'Ukraine imposée de l'extérieur.
On lui a posé la question dans Air Force One à Donald Trump au moment où il allait arriver jusqu'à la haie, et quand on lui dit, qu'est-ce que vous direz à Zelensky si vous le rencontrez, il répond, je lui dirai comment ça va, déjà. Il est dans une situation difficile, dit Trump, il n'aurait jamais dû se trouver là. Et on se demande dans ce mot-là, de quoi il parle, en fait. Il n'aurait jamais dû se trouver là parce que ça n'aurait jamais dû aller jusque-là, parce qu'il l'a cherché, ce que Trump a déjà dit. On est toujours dans cette espèce de vocabulaire extrêmement sibyllin qui ouvre 2000 portes sans donner aucune réponse.
Absolument. On a un Trump qui, là-dessus, a une lecture quand même très simpliste du conflit ukrainien, qui repose sur deux idées franchement discutables. La première, c'est que s'il avait été président, il n'y aurait pas eu de conflit. Ça, j'ai quelques doutes sur le fait que Vladimir Poutine aurait changé d'avis sur l'Ukraine avec Trump à la Maison-Blanche. Et d'autre part, sur le fait qu'il faut que le bain de sang s'arrête, comme il dit sans arrêt. Sans condamner la Russie, sans reconnaître qu'il y a un agresseur et un agressé, et en ayant vis-à-vis de l'Ukraine soufflé le chaud et le froid depuis son retour à la Maison-Blanche. Donc on est vraiment avec un sujet ukrainien qui reste très difficile et où il y a potentiellement de vraies divergences entre Européens et Américains. Et je pense qu'en creux, les Européens, et peut-être en privé, vont rappeler à Donald Trump à quel point le sort de l'Ukraine est important pour la sécurité européenne. C'est pas une crise parmi d'autres où le bain de sang doit s'arrêter.
À suivre en tout cas lors de ce sommet, vous l'avez rappelé, qui sera court avec un communiqué final qui le sera tout autant. Camille Grand, merci beaucoup avec nous depuis le sommet de l'OTAN de La Haye. Donc merci encore.
Merci à vous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde sur la piste du lynx ibérique. Autrefois en danger d'extinction, désormais bien plus en forme avec ses drôles d'oreilles pointues. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les
radars.
Au
Royaume-Uni, un autre animal, une buse, une histoire de buse un peu caïde.
Allez, le monde à 18h50 et Frédéric Saïs. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne. La guerre à Gaza, occultée par le conflit entre Israël et l'Iran.
Et Caroline au pays des 27. Bonsoir, bonsoir Caroline Gillen.
Interdire le gaz russe en Europe, ça fait des années que l'UE essaye, mais c'est bloqué par les Hongrois. Eh bien, la Commission essaie de les contourner. Anna Hubert nous explique.
Allez, à tout de suite, les amis. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par les plaines d'Amérique et ça va country, figurez-vous, avec Lana Del Rey, Bluebird. Deuxième extrait d'un 10e album qui se fait attendre, paraît-il. C'est en playlist sur Inter. Le reportage d'un jour dans le monde est en Espagne ce soir. Et je vous présente une sorte de gros chat avec des oreilles pointues. On dirait une petite antenne posée sur chacune d'entre elles. Peut-être qu'il a le wifi, on ne sait pas. Le lynx ibérique n'a pas toujours l'air sympa, mais il va mieux. En 2002, il en restait moins de 100 en Andalousie, unique exemplaire de toute la planète. Aujourd'hui, il y en a au minimum 2401 répartis dans le sud de l'Espagne et au Portugal. Le lynx ibérique a franchi deux étapes sur l'échelle de la conservation. Espèce en danger critique d'abord, et puis espèce en danger tout court, c'était en 2015. Et puis désormais, donc depuis à peu près un an, le lynx ibérique est passé dans la catégorie espèce vulnérable. C'est à cause de l'homme que le lynx ibérique était tout proche de disparaître, et c'est grâce à l'homme qu'il est sur le point d'être hors de danger. C'est le seul félin du monde qui a réussi cette performance. Le reste, c'est notre lynx ibérique à nous, Mathieu de Taillac, qui raconte.
Ce ronronnement puissant, c'est le bruit que fait Bisnard, nerveuse à coup sûr, sans doute même en colère. Quand la porte de sa cage se lève, elle part tout droit et à toute allure pour trouver la liberté. Vesta, elle, semble un peu perdue. Elle part droit devant elle, puis, comme intimidée par le public, elle rebrousse chemin en direction de la cage. Avant un nouveau demi-tour, et cette fois-ci, ça y est, elle a trouvé la route des montagnes de la Sierra Arana dans la province de Grenade. Bisnar et Vesta sont deux femelles de lynx ibérique, âgées d'un an et demi, des subadultes, disent des vétérinaires, des adolescentes, si l'on préfère. Elles vivaient dans d'autres zones de l'Andalousie. Le programme de sauvegarde du lynx les a déplacées pour assurer la diversité génétique de cet autre territoire. Malia José Pérez, directrice du centre d'élevage La Solivillas, les a accueillies quelques mois dans ses installations avant d'assister à leur libération.
On a vu qu'elles chassaient bien, qu'elles socialisaient entre elles, et le moment est venu de leur rendre leur liberté. C'est un moment spécial, un mélange de sentiments. D'un côté, on se préoccupe de savoir que tout se passe bien, et puis il y a la joie.
Des libérations de jeunes lynx, soit pour les déplacer, soit parce qu'ils ont été élevés en captivité. Les responsables et les techniciens du programme européen LifeLynx Connect en ont connu des centaines. C'est grâce à ce programme que le lynx ibérique est passé de 90 exemplaires en 2002 à 2401 cette année. Guillermo López est lui aussi vétérinaire, spécialiste des questions sanitaires et du territoire de la Sierra Arana. On lui pose une question basique. Que faut-il faire pour que le lynx s'épanouisse ?
Il se débrouille bien dans des zones où il peut s'alimenter et on le laisse tranquille, où il ne se fait pas tuer. Il n'a besoin de rien d'autre. Son alimentation, c'est le lapin. Une femelle ne peut pas avoir de petits s'il n'y a pas une densité minimale de lapins. Les femelles fixent leur territoire là où il y a suffisamment de ressources et les mâles cherchent des zones où il y a des femelles.
Et puis, pour savoir si un programme de préservation fonctionne, il faut compter les animaux. Javier Salcedo est le coordinateur du programme LifeLynx Connect pour toute la péninsule ibérique.
On fait un recensement annuel. On utilise la technique du piège photographique. On met des caméras à détecteurs de mouvement, on en met une par kilomètre carré. Ensuite, il faut traiter toutes ces photos. Chaque lynx a un motif unique de tache qu'il conserve toute sa vie. Quand on voit un lynx, on dit « Ah, c'est celui-ci » ou « Tiens, c'est celui-là ». Donc non seulement on les compte, mais en plus on les identifie individuellement.
Résultat, 2401 lynx au minimum, 25 fois plus qu'en 2022, et c'est sans compter tous ceux qui ont évité les pièges à photos. Le résultat du travail des techniciens et des scientifiques, mais aussi d'une unité rare entre tous les acteurs impliqués. C'est ce qu'explique la ministre régionale à l'environnement, Catalina García Carrasco.
Il y a eu aussi un travail très important de vulgarisation et de sensibilisation de la part de toutes les administrations. Nous, à la région, mais aussi le département, les communes. Aujourd'hui, en Andalousie, on peut dire que le lynx est accepté par absolument tout le monde. Les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs. Et si on ne s'était pas tous impliqués, on ne pourrait pas parler du succès dont on parle aujourd'hui.
Le lynx a le gros avantage de ne pas s'en prendre au bétail et de ne pas faire peur aux petits-enfants, contrairement au loup par exemple. Il a réussi à faire l'unanimité derrière lui et mis fin aux guéguerres politiques, une rareté en Espagne et sans doute ailleurs dans le monde, le dernier petit miracle du sauvetage du lynx ibérique.
Mathieu de Taillac pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
Boycott de 2 semaines de toutes les audiences judiciaires et convocation de police judiciaire.
Et nous sommes d'abord en Guinée, Kevin, où les avocats s'opposent à la junte militaire.
Et ce n'est pas rien dans un pays où les voix dissonantes sont fortement réprimées depuis le coup d'État de 2021 et l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Et c'est justement un nouveau cas d'enlèvement et d'intimidation qui a mis le feu aux poudres. Hier, l'Ordre des avocats de Guinée a décidé de se mettre en grève, de ne plus se présenter dans les tribunaux pendant les 2 prochaines semaines après le bref enlèvement en pleine nuit ce week-end de Mohamed Traoré, ancien membre du Conseil national de transition. Il a démissionné au début de l'année, critiquant la junte qui n'a toujours pas entrepris de processus démocratique. Des hommes cagoulés ont débarqué chez lui, le menaçant de mort. Des atteintes graves portées à notre profession, dénoncent ses confrères. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces violences, affichant même sa solidarité avec les avocats. Une séquence rare dans ce pays où de nombreux opposants au régime sont enlevés ou jetés en prison donc depuis 4 ans.
Nous voici aux États-Unis où la Cour suprême va se pencher sur une affaire capillaire.
Ah oui, la plus haute juridiction du pays va examiner à la rentrée le recours de Damon Landor. Ce détenu veut poursuivre des agents pénitentiaires de sa prison de Louisiane parce que lors de son incarcération pour possession de drogue, ils lui ont coupé ses dreadlocks et il estime que c'est une violation de ses droits religieux garantis par la Constitution américaine. Damon Landor est Rastafari, le rastafarisme popularisé par Bob Marley bien sûr, et certains mouvements culturels, mais aussi une religion. Il avait d'ailleurs présenté aux gardiens en 2017 la copie d'une décision judiciaire selon laquelle les Rastafari ont le droit de garder leurs dreadlocks car ça fait partie de leur spiritualité. D'après les archives judiciaires, un des gardiens a alors jeté le document, l'a attaché à sa chaise avant de lui raser le crâne. Damon Landor avait laissé pousser ses cheveux pendant quasiment 20 ans, ses dreads lui arrivaient jusqu'aux genoux. Il demande des dommages et intérêts.
Have you seen this particular bird? found a dive bombing buzzard called Brenda.
That is the dive bombing buzzard.
Et puis nous sommes donc au Royaume-Uni avec Brenda la terreur.
Des semaines, vous l'entendez que tous les médias britanniques en parlent. Brenda, c'est une buse, un rapace qui sème la pagaille dans la petite ville d'Avering-at-Bower au nord-est de Londres. Brenda, c'est comme ça que les élèves de l'école primaire de la ville ont baptisé l'oiseau qui leur fait peur parce qu'elle a attaqué certains d'entre eux. Depuis plusieurs mois, elle tourne autour de l'établissement et font en piqué sur leur tête. Au moins un enfant a été hospitalisé tout de même pour une blessure légère, ce qui a obligé la direction de l'école à interdire les récréations dans la cour. Les petits sont obligés de jouer à l'intérieur ou d'être transportés en bus vers une autre école pour profiter du dehors. Le Guardian raconte que des parents viennent chercher leurs enfants équipés de parapluies colorés censés éloigner l'animal. Pourquoi Brenda est-elle si agressive ? Peut-être parce qu'elle protège son nid. La municipalité, en tout cas, compte maintenant faire appel à un fauconnier pour éloigner cette buse qui est une espèce protégée au Royaume-Uni.
Il fallait l'appeler Cruella plutôt. Enfin, Brenda. Allez, Kevin, vous reviendrez demain.
Allez,
sans
on
buse,
va faire ça.
S'il vous plaît. Non. Vous partez avec Marianne Faithfull, de Ballade of Lucy Jordan, qui date de 79 et qui a connu une seconde vie grâce à Thelma et Louise de Ridley Scott. Vous êtes dans Un jour dans le monde. A tout de suite. Faithfull et la balade de Lucy Jordan sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50. C'est Frédéric Seyss.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et cette question, Frédéric, le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran peut-il réveiller l'espoir d'une trêve à Gaza ?
Conflit occulté, passé au deuxième plan. Qui sait encore ce qui se passe à Gaza ? Toute la journée d'aujourd'hui, plusieurs voix ont pourtant tenté de rappeler le funeste sort de l'enclave. Le président de l'autorité palestinienne a ainsi demandé à ce que le cessez-le-feu obtenu par Donald Trump au Moyen-Orient inclue aussi la bande de Gaza. Le moment est venu d'une trêve, a renchéri le chancelier allemand Merz cet après-midi, tout comme Emmanuel Macron, qui appelle aussi à la reprise de l'aide humanitaire. Autre voix influente, celle du Qatar, pays qui a joué les médiateurs dans ce conflit. Le premier ministre qatari dit espérer que les Israéliens, je cite, « ne profiteront pas du cessez-le-feu avec l'Iran pour déverser, pour poursuivre leur bombardement sur Gaza ». Ces dernières semaines, loin de la une de l'actualité, les frappes et les tirs n'ont pas cessé. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, depuis un mois, au moins 410 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de rejoindre des sites de distribution d'aide alimentaire. Bilan dévoilé ce matin, le Haut Commissariat dénonce des crimes de guerre. Par ailleurs, 49 des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre sont toujours retenus, dont au moins 27 sont morts, selon les autorités israéliennes.
Et ces appels pour une trêve à Gaza, Frédéric, se font également entendre en Israël.
Le Forum des familles d'otages appelle à terminer ce conflit, à négocier pour rapatrier les captifs. Dans leur communiqué aujourd'hui, on relève en particulier cette formule. L'opération de 12 jours en Iran est terminée. Il est temps de mettre fin à la guerre de 627 jours. 627 jours depuis le début des opérations israéliennes, juste après les massacres du 7 octobre. Message porté aussi par des responsables politiques israéliens, le chef de l'opposition, Yair Lapid, mais aussi le président d'Israël lui-même, dont le rôle est largement honorifique, Isaac Herzog, appelle à se saisir de ce moment pour permettre le retour des otages. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, n'a pas réagi.
Cette remise en lumière de la question de Gaza peut-elle permettre des avancées politiques ?
C'était il y a une semaine et pourtant ça semble déjà un siècle. Le 18 juin dernier, la France aurait dû organiser une conférence à l'ONU pour la reconnaissance d'un État palestinien. Cette initiative, co-organisée avec l'Arabie Saoudite, devait relancer la solution à deux États. Elle a volé en éclats. Le monde entier avait les yeux sur les échanges de missiles entre Tel Aviv et Téhéran. Le débat mondial s'est porté sur les notions de guerre préventive et d'enrichissement du nucléaire. L'initiative franco-saoudienne est donc devenue inaudible, reportée sine die, selon l'expression en vigueur, c'est-à-dire sans nouvelle date. Et effectivement, l'Élysée, que nous avons contacté tout à l'heure, ne se risque pas à dévoiler de nouveaux calendriers. L'Arabie saoudite, pas davantage d'ailleurs. Elle qui se remet à peine de ses frayeurs après les représailles iraniennes d'hier soir contre les bases américaines situées dans les pays du Golfe. Avec cette trêve, l'attention du monde entier peut se porter à nouveau vers Gaza. Mais le gouvernement israélien est-il prêt à y cesser le feu? Autant contre l'Iran, Benjamin Netanyahou revendique avoir atteint ses objectifs, en particulier le bombardement des sites nucléaires. Mais pour Gaza, il s'était fixé comme but l'éradication totale du Hamas, objectif pour le coup assez impalpable, assez invérifiable, voire sans fin.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. À demain, le mardi, Caroline Gillet pousse les portes de l'Europe pour nous aider à comprendre qui est là.
France Inter, le 18-20.
Et aujourd'hui, oui, Caroline, vous nous emmenez. Et fin de saison toujours, mais quand même toujours alerte. On est à la porte qui se ferme. On retrouve Anna Hubert, la journaliste de la revue en ligne qui s'appelle Contexte.
Oui, ça fait 2 ans qu'elle enregistre régulièrement des notes vocales pour raconter son quotidien de reporter spécialisé sur les questions d'énergie.
C'est technique.
C'est pointu. Mais ces derniers jours, elle m'a envoyé des messages en me disant qu'il se passait des événements passionnants pour elle et ses collègues de la rubrique énergie. Je vous laisse juger.
Coucou, je te fais un petit vocal dans la rue. Parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais au bureau en marchant. Je me suis dit que ça calmerait un peu mon stress du moment.
Mais pourquoi elle est stressée, Anna? Je lui demande de me raconter.
Tu veux que je te parle surtout gaz russe?
Oui, s'il te plaît.
Donc la commission présente un plan pour interdire...
La commission veut donc interdire les exportations de gaz russe
et de GNL, gaz naturel liquéfié,
vers les pays européens.
On est maintenant au 18e paquet de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine depuis la guerre en Ukraine. Et jusque-là, il a été impossible d'inclure le gaz, qui est une source de revenus importante pour la Russie, dans ces sanctions. Parce qu'il y avait des vétos trop forts, notamment de pays très dépendants du gaz russe, comme la Hongrie ou comme la Slovaquie, qui bloquaient l'adoption de ces sanctions. Or, ces sanctions doivent être adoptées à l'unanimité. Bref, la Commission s'est dit « on arrête avec le véhicule sanction ». Et donc, on interdit les importations via un autre moyen, et c'est donc les fameuses mesures commerciales qui ne requièrent pas l'unanimité côté Conseil de l'UE. Et ça, donc, ça date de mardi dernier.
On va faire une pause cadenas, parce que c'est quand même très technique. Alors voilà, raccrochez-vous comme moi à des sons et des expériences familières.
Zut, je voulais t'envoyer le son de mon cadet de vélo que je déverrouille, parce que je quitte un rendez-vous justement avec des experts... du marché gazier, sauf que mon canet est complètement verrouillé. Donc je vais devoir interrompre cet audio.
Alors, que fait Anna ces jours-ci pour décrypter cette annonce majeure, semble-t-il, de la Commission, à savoir tenter de bloquer le gaz russe malgré le veto des Slovaques et des Hongrois?
On cherche maintenant à parler avec un tas d'experts pour un peu comprendre si techniquement leur texte tient la route, juridiquement, face à des entreprises comme Gazprom, comme Novatek, des entreprises russes qui pourraient décider de saisir des tribunaux d'arbitrage internationaux. le discours officiel de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on est très confiant dans la solidité juridique du texte, mais ça n'a pas l'air si simple.
Parce que donc la Commission cherche des moyens de contourner les vetos des gouvernements plutôt pro-Poutine en Europe pour sanctionner la Russie et les oligarques. Mais la Slovaquie et la Hongrie vont sans doute en retour mettre leur veto sur d'autres textes qui sont négociés par les 27. Je vous ai perdu ? Si oui, je demande à Anna, sur une échelle de 1 à 10, elle dirait que c'est intéressant à quel point et pourquoi.
8,5, 9,5, quoi. Parce que ça évite justement des trucs hyper techniques de est-ce qu'on peut vraiment interdire le gaz venu d'un pays en particulier. On n'a jamais vu ça, c'est vraiment une première en termes de pouvoir que ça accorde la Commission, ou qu'en tout cas on veut bien lui accorder, les États membres veulent bien lui accorder. Donc politiquement, c'est super intéressant aussi. Ouais.
Hier, lundi 23 juin, c'était donc le Conseil des ministres des Affaires étrangères. C'est là, pensais-je, que tout ça va être tranché. Je lui écris pour lui demander, alors, c'est le grand jour ?
Oui, big day. Et donc là, on est en plein doorstep.
Doorstep, ça veut dire pas de la porte. Donc c'est ces interviews qui se font à l'entrée ou à la sortie de ces réunions de ministres ou chefs d'État qui se font, elles, en huis clos. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien est invité ce jour-là exceptionnellement aux côtés de ses 27 homologues européens. Il dit « Encore une nuit sans dormir à Kiev. Encore une attaque de missiles
là,
sur les cibles. »
L'Ukraine devrait appeler l'Union européenne à renforcer ses sanctions.
Il est peu avant midi. Anna rejoint le bâtiment dans lequel a lieu ce Conseil des ministres. C'est là encore sur la place Schuman, en face de la Commission. Je ne peux pas m'empêcher de diffuser cette ambiance de cantine d'entreprise qu'elle m'envoie.
Qui est vraiment blindé le monde. Signe que y a à la fois beaucoup de journalistes qui doivent suivre ce Conseil Affaires étrangères et qu'il y a aussi beaucoup de diplomates. Et ça, c'était la sonnerie du micro-ondes.
17h24, ça y est, conférence de presse. Les ministres des Affaires étrangères se sont parlé.
Les Hongrois annoncent qu'avec la Slovaquie, ils vont bloquer le 18e paquet de sanctions. Et je cite le tweet du ministre des Affaires étrangères hongrois qui dit « parce que Bruxelles pousse pour un plan ». Qui interdirait les Européens d'acheter du gaz et du pétrole russe, donc le plan de mardi dernier, pour lequel, a priori, la Commission n'avait pas besoin de l'unanimité des États membres, mais effectivement, si certains d'autres textes, comme les sanctions qui, eux, ont besoin de l'unanimité, la Commission est bloquée, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, rien n'est terminé et tout continue.
Rien n'est terminé, tout continue, ça tombe bien. Ouais, on la retrouve à la rentrée pour la suite de ses aventures.
Voilà, il est à suite des vôtres mardi prochain quand même. Ne partez pas si vite, Caroline Gillet. Voilà, n'oubliez pas. Merci beaucoup.